Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir à toutes et tous, bonjour, bonjour. On refait le match, 18h30 chaque samedi, bienveillance, info, débat, échange avec vous tous. Émission, vous le savez, 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou via l'application et à retrouver le plus vite possible, en total replay comme on dit. Et vos messages, bien sûr, sur Twitter, le compte @RTLFoot. Avec moi et en studio, Philippe Sansfourche, le chef de la rubrique Foot, qui après cette émission filera direct Gare de Lyon pour y dormir, de peur de manquer le TGV numéro 1375 qui le conduira à Marseille pour les commentaires d'OM Paris Saint-Germain. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous et à toutes. La bienveillance, maître mot de cette émission. Donnez pas trop les numéros de train, les numéros de chambre et compagnie. On n'a pas que des amis hein, parfois quand on se déplace autour des stades.
Hein. Ben non, le Marseillais est chambreur, mais le Marseillais est bienveillant. Numéro 1375, le numéro de TG.
C'est bien aimable.
Avec nous également Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe qui samedi dernier, souvenez-vous, on avait marre qu'on parle de l'arbitrage vidéo. Ah. Bah ça tombe bien parce que ce soir on débattra des micros pour entendre les arbitres. Bonsoir.
Très bien, c'était pas la chose dont j'avais le plus marre, mais effectivement.
Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, lui aussi frétille à la veille de l'OM PSG.
C'est vrai. Bonsoir, il y a beaucoup de chefs, hein, j'ai l'impression ce soir.
Et il nous confirmera ou pas que c'est un classique et non un classico.
Oula.
Ah. Non ? Bonsoir.
Je ferai ce que vous voulez.
Stéphane Pauwels, le plus français des Belges, ou belge des Français, on s'y perd. TV5 Monde, RTL et désormais W9 le jeudi en Ligue Europe. Bah, c'est pratique, au moins vous connaissez le chemin. Bonsoir.
Bonsoir, c'est juste en face.
À 20h, la brochette RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Baptiste Durieux, avec à 21h Samuel Duhamel pour l'intégralité, mais pas seulement, de Lille-Brest, alors que dans le match de 17h, Nantes mène devant Clermont par 2-1. Dans un instant, nous filerons à la Beaujoire. Au menu ce soir. Écoutez bien, le menu est non pas indigeste, mais il est copieux. Au bord de la crise des verts, vous avez vu le jeu de mots, les supporters de Saint-Etienne sont énervés. Claude Puel pourra-t-il résister encore très longtemps? Les registres sont différents, mais chacun supporte sa propre actualité. Benzema Hernandez, leur procès. Icardi, sa vie conjugale. Patrice Evra, sa vie intime, qui vient de révéler un sordide traumatisme. Afin qu'il n'arrive plus aux autres, d'ailleurs, Evra conseille de parler et de dénoncer. Ma question, le footballeur professionnel doit-il donner l'exemple? Les arbitres avec des micros, pour ou contre? Les clubs, les fédérations, les instances internationales cherchent à lever des fonds. Lyon-Monaco pourrait avoir lieu en Chine. Le foot est en danger. Foot et fric, sauf qui peut. Sur le terrain, la tactique, on en parle également. La mode est à une défense à 3 joueurs. Évolution ou révolution? Concept en carton? Et puis demain soir, donc, Marseille-Paris-Saint-Germain, un classique comme au bon vieux temps. C'est la question que je vous poserai. On en débattra avec les Français, interrogés par Odoxa pour RTL et Kenéo. Et puis les tirs au but, avant 20h, vous le savez, tout le reste de l'actu sous forme de quelques questions. Les plus rapides marquent des points, les plus faibles quittent le studio. Classement général provisoire, Sansfourche, Verdez sont co-leader avec 5 points. Devant Tarago et Sévrac, 3 points. A tout de suite, restez avec nous. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Sansfourche, Sévrac, Pauwels, Tarago et avec Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste, pour les messages sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et puis à la Beaujoire, bonsoir Philippe Audouin.
Bonsoir Christian.
Le match de 17h, 77 minutes de jeu et Nantes qui mène face à Clermont par 2-1.
Et oui, 2-1 pour les Nantais qui avaient ouvert le score en première mi-temps. Par Giroto, il y a eu une expulsion de chaque côté en première période. Gatien tout d'abord pour Clermont et puis ensuite Corchia juste avant la mi-temps pour les Nantais. Bayo, le meilleur réalisateur clermontois, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, a égalisé dès la 4e minute de la 2e période et puis Nantes a repris l'avantage à l'heure de jeu sur une action du duo Colomouani-Blas, joliment conclu par Blas. 2-1 donc pour Nantes et il reste 13 minutes.
Et une carte rouge partout, n'est-ce pas Philippe Audouin?
Exactement, c'est ce que je viens de dire.
Ah pardon, j'étais un peu distrait, j'étais déjà dans mon premier débat, vous intervenez dès que vous le souhaitez. Philippe Audouin, antenne ouverte.
Le but de Nantes, le deuxième but de Nantes est absolument fantastique. Ouais. Ce que fait Colomouani quand il voit arriver Blas et cette passe en retrait est formidable et on ne le répète pas assez, mais ce que réalise Nantes depuis le début de saison c'est formidable parce que c'est du beau jeu. Antoine Camboiré a été longtemps critiqué, parfois à juste titre, pour un esprit plutôt défensif. Ce qu'il fait à Nantes, ça va à l'inverse de sa réputation et c'est extraordinaire.
Et c'est Sébastien Tarrago qui vous le dit et qui aime aussi le jeu de M. Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot.
Oui, mais ils vont le payer cher parfois quand même cette saison.
Ah, mais on va en parler dans Refait le match, parce que ça, c'est cette fameuse défense à 3. Alors c'est une évolution, une révolution ou une mode en carton. Moi, je dois dire que j'ai fait des recherches et j'ai bien bossé sur le sujet. Je peux vous dire qu'en 1930, entre les deux guerres, eh bien, la défense à 3, ça existait déjà.
Mais entre ça et les billets de train de Philippe Sanfour, je vous avais bossé grave.
Vous avez vu le teasing? Vous avez vu le teasing?
C'est dingue.
C'était une blague, le numéro. Je dis tout de suite, évidemment, le numéro de TGV n'existe pas, 1375. Hein,
sur 7, place 51, ça va. À 10h59.
On n'est pas dans les clichés avec le 51.
Allez, Marseille-PG, on en parle.
Je ne sais même pas.
Marseille-PG, on en parle. C'est dans le subconscient.
Sans doute.
On en parle à quelle heure? À 19h30. Allez, messieurs, on a un menu de fou, donc on entre tout de suite dans le vif du sujet, au bord de la crise des nerfs. C'est mon titre à moi, donc je le répète, hein, évidemment.
C'est bien.
Donc, au bord de la crise de nerfs.
C'est brillant.
Match retard. Bon, attendez, parce que les titres du Parisien aujourd'hui en France, on peut aussi en parler.
Je ne suis pas responsable. Donc, allez-y, faites-vous plaisir.
Calmez le jeu, mettez le pied sur le ballon, s'il vous plaît. Hein. Match retardé d'une heure. Fumigène, banderole menaçante. Coup d'envoi de Saint-Étienne-Angers, 2-2 à l'arrivée, donné à 22h. Vous avez suivi tout cela avec l'équipe d'RTL Foot sur l'antenne de RTL hier soir. On était vraiment au bord de l'insurrection, quand même. Deux questions. Premièrement, comprenez-vous la colère des supporters? Sans la justifier, bien sûr. Deuxième question, Claude Puel pourra-t-il résister encore très longtemps et conserver cette saison, évidemment, son poste de manager-entraîneur? Qui s'y connaît?
Elles sont bien vos deux questions, mais il manque le match devait-il avoir lieu? Je suis désolé, on en revient toujours au même point. On ne peut pas jouer un match dans ces conditions-là. Tout simplement.
J'ai une réponse à cela.
Angers a bossé toute la semaine pour jouer un match à 21h, pas à 22h.
Je vais vous répondre. Ce n'est plus la Ligue du football professionnel qui organise les matchs. C'est la préfecture.
Ah mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui le fait.
Ah mais je vous dis que c'est la préfète de la Loire qui a fortement recommandé. Parce que si je dis imposé, évidemment, on va me dire est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez, mais fortement recommandé pour que le match ait lieu.
Moi, je ne dis pas que c'est la responsabilité de la Ligue ou de la préfète. Je vous dis qu'on ne peut pas jouer au football. C'est tout simplement que Angers n'a pas travaillé toute la semaine pour en arriver là, dans des conditions, comme vous l'avez dit, quasi insurrectionnelles. Donc ça, ce n'est pas possible.
Les joueurs de Saint-Etienne, ils ont bossé toute la semaine aussi.
Oui, donc voilà. Donc, pour répondre à vos questions, oui, on comprend je comprends la colère des
supporters. Non, mais je voudrais qu'on reste sur Angers, Dominique Sévrac.
Oui, je comprends la colère des
C'était l'enjeu de la soirée hier, que les joueurs d'Angers puissent démarrer.
Mais bien sûr. On respecte un adversaire. Angers aurait pu réclamer.
C'est
comme
un des enjeux de la soirée. C'est un des enjeux du diffuseur. C'est un des enjeux des téléspectateurs. C'est un des enjeux des Angevins. C'est un des enjeux des Stéphanois. C'est un des enjeux de la passion ne justifie pas tout, quoi.
Non, mais ce qui est terrible, c'est ce que dit Christian Olivier. C'est que donc maintenant c'est plus le football qui décide. Donc ça veut dire que maintenant on est dans des instances hors terrain qui disent il faut jouer. Voilà.
Ça vous choque absolument? C'est-à-dire qu'à un moment, quand on entre dans le domaine de la sécurité publique, je comprends que l'État ait la main dessus. Mmh. Voilà, c'est tout. Et après, on peut discuter de la décision. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est autre chose. Mmh. Mais si c'est la préfète qui a...
Fortement recommandé.
Voilà, fortement recommandé que ce match se joue, alors...
Sébastien, si elle a la main,
moi, je comprends qu'on puisse se réfugier derrière des histoires de sécurité publique.
Moi, je veux pas qu'on joue sur l'argument.
Dominique, deux choses.
Mais c'est pas bien.
Pourquoi le match s'est joué? Un, parce qu'effectivement, la préfète a fortement recommandé qu'il se joue. Mais deuxième chose, ceux qui ont balancé les fumigènes, ceux qui ont voulu créer cette insurrection, ont été exfiltrés de la tribune et ils ont été arrêtés ou pas, ça, on ne le sait pas. Et on l'aurait su s'ils avaient été arrêtés parce que ça aurait été un succès de la sécurité. Ils ont été exfiltrés de la tribune.
Je sais bien que chaque cas est particulier, mais après Nice-Marseille, après Angers-Marseille, après tant de matchs, après Lens-Lille, au bout d'un moment, si on ne fait rien, on va l'avoir toute la saison. Il reste 27 journées, on va y avoir droit tout le temps. Et demain, il y a un classico ou un classique.
Sans supporter parisien.
Oui, mais c'est accessoire, je veux dire, dans le décorum, dans le
barnum. Mais non, parce que la préfecture n'aura pas à décider du maintien ou pas du match. Il n'y aura pas de problème entre supporters.
On peut s'en prendre un Messi, on peut lui lancer des trucs, on peut lui mettre un laser toute la soirée. Ça non plus, c'est pas acceptable. Donc, on peut caillasser le but du Paris Saint-Germain, ça demande de personne.
On n'en est pas là pour l'instant.
C'est des choses qui ont eu lieu.
Philippe Sanfourche.
Moi, je vais encore passer pour le dangereux défenseur de la horde de voyous qui garnit les travées des stades et notamment nos amis ultras. Je trouve qu'on ne peut pas tout mettre tout le monde dans le même panier et mettre dans un shaker tous les événements du début de saison et faire comme si ce qui s'est passé hier à Saint-Etienne était l'équivalent de ce qui s'est passé à Nice, de ce qui s'est passé à Angers. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Je trouve que entrer sur le terrain, ça doit être sacralisé. Le terrain, on ne rentre pas sur le terrain. Il y a un niveau de violence qui n'est pas acceptable. En revanche, on ne peut pas mettre sur le même plan le désarroi total de ces supporters stéphanois pour qui ce club est tout et qui sont qui ont le sentiment que, et je pense à juste titre que c'est un club qui est en totale perdition et qu'on est au bord de l'abîme. Ils expriment peut-être parfois maladroitement, mais ils expriment leur passion et leur colère.
Plus que maladroitement, Philippe, il y a des banderoles menaçantes.
Tu ne mets aucune
l'adresse. Il y a des menaces.
De l'acceptable.
Parce que je dis simplement que
là, visiblement,
je dis simplement. On a vu les images sur le début de saison de hooligans qui pour moi sont des hooligans qui voulaient s'en prendre physiquement à des joueurs ou des dirigeants adverses. Et ça, pour moi. C'est, ça n'a rien à voir avec
le
foot.
D'accord,
mais alors que le fait de manifester
ta tolérance, elle va jusqu'où en fait?
Je ne suis pas choqué par le fait que les ultras manifestent.
Non, pas avec des banderoles menaçantes.
Leur désarroi par rapport à une situation qui est
avec des banderoles menaçantes. Stéphane Pauwels.
Deux choses, Christian, vous avez posé deux questions. La première question, est-ce que les supporters, donc moi je vais faire court, je pense, Philippe, qu'on peut montrer son désarroi sur une politique du club depuis le début, mais des banderoles menaçantes, ça n'existe pas dans un stade de foot. Quelle image on donne aux gamins de mettre ce genre de paroles sur des banderoles?
Grosso modo, c'était Puel, t'as 24 heures pour des
voilà, Et après, je vais revenir sur votre deuxième question, puisqu'on a bien parlé de la première, sur la situation de Saint-Etienne, et est-ce que Puel va tenir le coup? Alors, je le cache pas. Vous savez, toute l'affection que j'ai sur Claude Puel, mais je vais vous dire un truc là. Je vais essayer d'être neutre. Puel, il est là dans un club, il est arrivé. C'est un bordel sans nom, ce club, avec ses deux présidents, depuis, ça fait des années que ça dure. Il arrive, on lui demande de faire du nettoyage, il dégage Ruffier à l'époque, il fait son travail, il est peut-être maladroit de temps en temps, mais il essaye de coacher, de faire son job. Je signale quand même que contre Lyon, ils sont à l'arrache, ils viennent chercher un match nul.
En trompe-l'œil.
En trompe-l'œil, certainement, mais ils vont le chercher. Ici, ils vont le chercher. Vous allez me dire encore en trompe-l'œil, mais ils vont le chercher. Est-ce qu'on coupe la tête d'un entraîneur qui essaye d'optimiser le potentiel qu'il a et d'essayer au maximum de tirer un petit peu de quintessence de ce groupe? Est-ce que c'est Puel qui doit être viré?
Attendez.
Moi, je vous dis non.
Attendez. Le contexte est quand même très particulier, vous le savez, et lors du derby Lyon-Saint-Etienne, ce sont des informations que vous connaissez également, qui n'ont pas été données publiquement, que je vais donner publiquement ce soir, c'est que si Lyon avait marqué un troisième but, les RG du coin, de la région, savaient que le stade serait envahi. Donc, tout est préparé. Tout est préparé par une frange de supporters de l'AS Saint-Etienne. À 3-0, troisième but lyonnais du derby, je répète,
le stade... Ça, c'est ce que certains déclarent, les ultras.
Ce n'est pas certains qui déclarent, des informations qui sont recoupées et qui sont remontées auprès des RG.
Mais qu'est-ce que Puel a voir avec là-dedans, Christian? Je comprends pas.
Mais parce que là, Puel a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le seul. Parle simplement du comportement des supporters. Sébastien Tarrago.
Non, mais il y a beaucoup de sujets, donc c'est complexe, mais j'entends ce que... dit Philippe, on est en désaccord globalement sur toutes ces histoires de supporters, mais je trouve que ces arguments sont bons. La seule chose où je trouve que ça ne tient plus, c'est quand tu te retrouves avec des filets brûlés. Là, il y a un moment, c'est pas possible en fait.
Je n'ai pas dit que je cautionnais toutes les interventions.
Voilà, ça dépasse le cadre. Qu'ils manifestent des choses dans leur place, de leur place, pas de souci. C'est leur droit, il n'y a pas de problème avec cela. Mais en revanche, je trouve qu'hier, ça a quand même dépassé les bornes. C'est différent que d'aller sur un terrain et d'aller se taper avec des supporters adverses ou des joueurs, mais c'est moche, c'est pas acceptable.
Alors, on se résume. Comprenez-vous la colère des supporters? Oui, mais leurs agissements, non. Et derrière la pub, deuxième question. À ce rythme-là, Claude Puel tiendra-t-il longtemps? En tout cas, tu en reviendras jusqu'à la fin de la saison. 18h47, la pub, à tout de suite, c'est On fait le match et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Dominique Séverac et Stéphane Pauwels. Dans un instant, vos messages collectés bien évidemment par Baptiste Durieux sur le compte @RTLFoot. Mais place au direct, car nous sommes dans le temps additionnel, Nantes-Clermont-la-Beaugeoire, Philippe Audouin.
Et il reste 3 minutes, puisqu'on vient d'entrer dans les 3 minutes de temps additionnel. Nantes qui mène toujours 2-1 logiquement et qui s'achemine vers une victoire qui pourrait le propulser très haut dans le classement.
Merci Philippe qui nous appellera pour solder la fin de cette, le résultat et la fin de cette rencontre.
Nantes serait 5e je crois, hein, en attendant les
bravo,
matchs de demain.
En attendant les matchs de demain.
Bien sûr, bien sûr.
On en début.
Quand on se rappelle d'où vient Nantes, ça...
le début
les tribunes sont journée. Pleines à la Beaujoire, quasiment.
Bah quand c'est bon, quand c'est bon les gens viennent. Hein. Déjà, il y a déjà une base de supporters. Et puis là, le spectacle, comme l'a dit Seb, est comme très intéressant depuis le début de saison. Donc on... voilà, il fait bon.
Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'AS Saint-Etienne.
Oui.
Où il fait pas bon actuellement jouer au football.
La température, pourtant, ça change.
C'est chaud.
C'est maussade là-bas.
Et donc Puel, Claude Puel, l'avenir de Claude Puel, arrivera-t-il à résister tout au long de cette saison?
Déjà, on ne gouverne pas avec les ultimatums et la menace. Donc t'as 24 heures pour faire ceci ou cela. Bah non. C'est pas eux qui décident, les supporters ils supportent, les entraîneurs ils entraînent. Donc déjà, moi je veux bien hein, qu'ils aient le droit de manifester, de crier leur colère. Alors, tu as raison, Philippe, mais pas d'ultimatum, pas de menace. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce. Moi je vois ça dans des régions mafieuses où on dit aux gens.
Mais tant qu'on est au stade de la banderole, on est dans le folklore du football.
Non, parce que c'est une façon de parler. C'est une façon de parler Twitter, qui aujourd'hui on donne des sommations, on ne discute plus.
C'est haineux.
On enjoint les gens à faire comme nous on veut. Bah non, en
Philippe,
fait,
Philippe, je vous discuter. En supplie, ne parlez pas du folklore du foot, parce que dans les minutes qui suivent, je vais recevoir un SMS et ce sera J'ai continue, signé Pascal Pro. Donc ne parlez pas du folklore du foot.
Non, mais ça,
je vous en supplie.
Si c'est Pascal, ça va.
Non, mais faut qu'il vienne dans ce cas-là.
C'est vertu, alors.
Non, mais moi, ça me choque ce que tu dis, Philippe, parce que pour moi, le folklore du foot, c'est ce qui se passe parfois en Angleterre. Avec des chants qui sont cruels parfois, mais toujours très drôles, et où s'exprime une certaine forme d'intelligence. Et je trouve qu'en France, et pas qu'en France, mais en France, il s'exprime surtout la bêtise. Et donc quand on n'est pas content d'un entraîneur, eh bien on se montre menaçant, agressif, et je trouve ça triste, parce que moi ça peut m'amuser effectivement que des supporters prennent la parole et disent des choses, mais s'ils pouvaient montrer un tout petit peu d'intelligence, pas beaucoup, hein. Un tout petit peu.
Philippe,
et ben je serais pas contre.
Philippe, je voulais juste dire, Philippe, juste
ah bah, c'est une condescendance Philippe, si tu veux. Mais enfin, moi, je menace personne. Ouais. Je m'amuse et je ne comprends pas en fait ce qui peut guider ta vie. Quand tu arrives dans un stade de football...
Ta vie, pas celle de Philippe Sanfourche. Hein, ta vie, globalement.
Quand tu arrives dans un stade de football et que tu viens pour menacer des gens ou pour taper des gens, oui, je suis condescendant.
Mais on est bien d'accord.
Philippe, juste
sur le mot folklore.
S'il vous plaît, je reprends la main. Sanfourche, réponds à Tarago et ensuite Stéphane Poel.
Encore une fois, je me fais volontairement l'avocat du diable depuis le début de cette émission parce que je sais que je suis à peu près le seul à pouvoir le faire, étant donné qu'il y a une seule et unique voix qui est là pour... finalement mettre à mal tout ce pan de la culture.
Oui, mais je crois qu'on n'en a pas besoin.
Tu vas parler de pensée dominante quand même, Philippe.
Hein,
tu vas pas nous faire le coup de la pensée dominante quand même.
Et des médias mainstream.
Il n'y a plus grand monde pour les défendre, nos amis les ultras.
Ils font des efforts, pour
Philippe.
Ça.
Non, la réponse de Philippe.
Je suis d'accord. Il y a des débordements, il y a parfois un manque de finesse, et je ne cautionnerai jamais tout, bien entendu que non. En revanche, il ne faut pas oublier qu'à Saint-Etienne, comme dans d'autres clubs, comme à Lens, comme ailleurs, il y a une passion qui est dévorante, qui est débordante, parce qu'il n'y a pas non plus 50 milliards d'activités. Parce
ça, c'est de la condescendance.
Mais
c'est revendiqué.
Les gens qui vont à Saint-Etienne
ne sont pas capables de faire autre chose que d'aller à un match de
football.
Il y a le Louvre, c'est une culture dominante, le football à Saint-Etienne. Et que lorsque l'on vient à Saint-Etienne comme joueur, comme dirigeant, comme entraîneur, on prend en compte, en considération, le fait qu'on n'est pas dans un club comme ailleurs.
C'est terminé à Nantes, Philippe Audouin.
C'est terminé et c'est Nantes qui s'impose logiquement 2-1, donc avec les buts de Giroto et Blas, alors que Bayo avait égalisé pour Clermont. Nantes 5e du classement dans une belle ambiance.
Et là, Philippe, tu n'as pas rappelé les cartons rouges. Là, j'ai pas été distrait.
Je n'ai pas rappelé les cartons rouges avec Corcia et Gatien qui avaient été expulsés en l'espace de 10 minutes en première mi-temps.
Merci beaucoup.
C'est pour ça.
Réaction et débrief à 20h dans RTL Foot. Merci beaucoup, Philippe Audouin. Stéphane Poel.
Juste sur le mot folklore, Philippe, dans mon petit pays, si je vous donne l'exemple, ça fait 5 ans que donc les supporters, des minorités, mais dans certains clubs, insultent une partie juive, ceux qui ne sautent pas ne sont pas juifs, insultent les Wallons sont dus, bon, je ne dirai pas. C'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'a dit la fédération belge? Elle a dit, et la ligue, elle a dit, oh, ça fait partie du folklore. Ça a mis en émoi tous les gens du foot en disant, mais vous êtes fous, quoi. Voilà, ça fait pas partie.
C'est une bêtise caractérisée.
Mais d'accord.
C'est encore une étape supplémentaire.
C'est encore le niveau, une étape supplémentaire. Et justement, pour pas arriver à cette étape supplémentaire, je peux pas accepter que tu dises que ça soit du folklore.
On l'a entendu, ce mot folklore dans le football français. Là, j'ai la mémoire qui me fait défaut.
Ces banderoles-là, ça peut dégénérer, Philippe. C'est ça que je veux dire.
Nathalie Bois de la Tour.
Ce que je veux te dire, Philippe, je suis en train de te dire que ces banderoles-là, si on n'intervient pas maintenant, on va en arriver alors en Belgique, on va passer l'étape supérieure. Et ça, il ne faut pas. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de dire que c'est du folklore. On ne peut pas cautionner.
C'est le traditionnel principe de précaution qui fait que pour pas que ça dégénère, on interdit les banderoles, on interdit les supporters.
J'ai pas dit d'interdire. Non, t'es de mauvaise foi. J'ai pas dit qu'on interdisait les banderoles. On interdit les banderoles qui sont caractérisées agressives sur des personnes.
On approche de la fin de ce débat. Je vous en supplie. On approche de la fin de ce débat. On a fait 25 minutes sur les supporters. Très bien, et vous avez été excellent. L'avenir de Claude Puel.
Bah, j'attends que c'est Pascal Duprat qui devrait le remplacer.
C'est la rumeur.
Bah, moi, ça m'a...
Ça quoi, vas-y.
C'est désolant. Si Saint-Étienne pense... Pardon ?
Un soin.
Si Saint-Étienne pense qu'il va s'en sortir mieux avec Pascal Duprat qu'avec Claude Puel. Claude Puel, il était en train d'échouer.
Financièrement, peut-être.
Bah, non, mais Claude Puel était en train d'échouer, mais je pense que sa carrière plaide pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi dans beaucoup d'endroits, qui a eu beaucoup de réussites, qui a parfois joué un jeu extraordinaire comme à Nice, qui a réussi en Angleterre, à Leicester et à Southampton dans des clubs difficiles où il parlait pas anglais. C'est quelqu'un qui a un CV.
Immense palmarès et CV. Mais dont on dit parce que tout le monde vieillit.
Il est un peu fou.
Non, et puis que. C'est plus le Claude Puel avec la même flamme.
Non, c'est pas vrai.
Il a pas 112 ans.
Vous regardez pas les matchs qui sont
Olivier. Il a pas 112 ans, Christian.
Non, je regarde pas. Je regarde les matchs.
Mais vous l'avez vu, il a la fougue. Il demande à ses joueurs.
Il est engoncé dans son costume et il subit.
Vous êtes sévère.
Je me fais comme Sanfourche, l'avocat du diable.
Il est dans un costume et il subit, mais vous l'avez pas vu. Il a boosté ses joueurs.
Vous savez, moi, les joueurs m'ont fait de la peine. Parce que dans le langage corporel des joueurs, il n'y a pas ce sentiment de révolte malgré tout.
On égalise dans le temps additionnel.
Oui, non, c'est pas ce que je veux dire. Dans les duels avec les adversaires, duel perdu, ça passe crème. Une erreur d'arbitrage ou un sentiment d'injustice, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas une pression, etc. Voilà.
Est-ce que les joueurs ont tous ce niveau?
Il y a eu cette réaction avec le but égalisateur, effectivement, mais je trouve qu'il manque un supplément d'âme chez les joueurs. Ils m'ont fait de la peine hier.
C'est une équipe qui est dernière et qui souffre. C'est une équipe qui a un manque de confiance. Mais ça peut s'inverser en trois résultats. Ça, c'est l'histoire du foot.
Surtout, la réalité, c'est que tu gagnes trois matchs et ça va. Donc, c'est pas terminé. Mais moi, j'étais persuadé que le travail de Claude Puel, laborieux, allait payer cette saison. Je me suis trompé. Le fait est que Claude Puel, il réussit pas son affaire. Et c'est vrai que parfois, il a des attitudes qui peuvent aller à l'encontre, je crois, moi, de la performance de l'équipe et surtout du bien-être de l'équipe.
Donc, les amis,
il faut qu'ils fassent attention aussi. Ils se remettent en cause aussi.
Aussi, bien sûr. Programme de Saint-Étienne à Metz le week-end prochain. Et Saint-Étienne recevra clairement, presque un derby.
C'est un bon derby.
Non, mais sa position, elle est intenable. Pour vous répondre, elle est intenable.
Deux matchs avant la séquence internationale. Les messages sur les réseaux sociaux, sur le compte @RTLFoot avec Baptiste Durieux.
Et ils sont nombreux sur Saint-Etienne. Bruno nous dit: je pense à la personne qui est allée sur la pelouse avec son fumigène pour brûler les filets. Mais dans quel monde vit-on? Entre la colère et la pyrotechnie, il y a quand même un juste milieu. Pas de débat sur le supporterisme ou je ne sais quoi. C'est une question d'intelligence et d'éducation. C'est ce que nous dit Bruno. Corentin nous dit: j'aurais tendance à dire que oui, je comprends la colère, mais pas la violence. Mais là, la colère en fait n'est même pas légitime pour moi. Les joueurs se donnent depuis la première journée, puis elle travaille et travaille bien. Son équipe ne l'a pas lâché, ça se voit. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Sur quel fondement concret aujourd'hui tu peux faire ce que les ultras ont fait hier? C'est la question que pose Corentin. Et puis sur Claude Puel aussi, beaucoup de réactions. Ludo nous dit que les supporters se cotisent et rachètent le club. Là, ils pourront décider et donner des ultimatums à Claude Puel. Les messages de Marlon enfin. Pas envie d'en vouloir à Puel, homme et coach de grande qualité, aucun intérêt à tout point de vue de le licencier.
Merci beaucoup Baptiste Durieux. La publicité, les informations 19h et la suite d'On fait le match jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le retour dont refait le match, toujours avec de la bienveillance, de l'info, du débat, des échanges en compagnie autour de cette table de
Philippe Sanfourche pour RTL, de Sébastien Tarrago pour la chaîne L'Équipe, de Stéphane Powels pour RTL, pour TV5 Monde et désormais pour W9. Et Dominique Sévérac, du Parisien, aujourd'hui en France. La Ligue 2.
Ah oui,
la Ligue 2, c'est la 13e journée.
Ah, c'est pour Sébastien.
Et c'est suivi. Ne réduisez pas Sébastien Tarrago au simple championnat de France de Ligue 2. Parce que vous allez
J'espère,
vous retrouver.
Parce que sinon, ça veut dire que je
attention,
pas chose.
attention.
Mais le Havre va bien, par
Baptiste
exemple.
Baptiste Durieux, le coup d'envoi de la journée.
Absolument. 7 minutes de jeu sur toutes les pelouses. 2 buts inscrits déjà. Ça va un peu mieux que Saint-Etienne à la Ligue 2. 1-0 pour Guingamp face à Nîmes. 1-0 pour Quevilly-Rouen sur la pelouse de Sochaux. On rappelle également que le leader Toulouse a fait match nul 2 buts partout à Charletti face au Paris FC. Et dans le reste des rencontres, AC Ajaccio-Nancy, Amiens-Valenciennes, Dunkerque-Caen, Grenoble-Dijon, Le Havre-Pau et enfin Niort-Rodez 0-0 donc sur ces pelouses.
Et on fera un nouveau point dans une bonne quinzaine de minutes, Baptiste, en compagnie des auditeurs et de leurs messages sur le compte @RTLFoot. Messieurs, deuxième débat du soir. Actualité sensible, alors laissez-moi présenter les choses pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, de faux procès également avec ceux ou celles qui nous écoutent et ensuite qui vont sur les réseaux sociaux et bon, qui parfois ne sont pas très aimables. La question est la suivante, le footballeur professionnel doit-il donner l'exemple ? Il y a sans doute une différence avec doit-il être exemplaire ? Je vous soumets trois cas. Le procès Benzema, le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende pour Benzema soupçonné de complicité de tentative de chantage sur Valbuena, jugement 24 novembre. C'est le procureur lui-même qui le dit, un footballeur professionnel doit donner l'exemple. Deuxième cas, la vie conjugale de Icardi. Alors vous me direz qu'elle ne regarde que le couple, mais qui serait en train de se séparer. Sauf que cette vie est étalée par madame et par monsieur sur les réseaux sociaux et qu'au passage, ça influe sur le rendement sportif du joueur qui a été forfait contre Leipzig et qui a zappé quelques entraînements. Troisième cas, c'est sans doute le plus délicat et franchement le plus traumatisant pour l'intéressé et pour tous ceux qui ont été confrontés à ça. Situation révélée par Patrice Evra lui-même. Ce sera jeudi prochain dans une autobiographie. L'ancien joueur de l'équipe de France, de Marseille, Monaco, Manchester, etc., révèle qu'il a été victime d'agressions sexuelles de la part d'un enseignant qui l'accueillait à l'âge de 13 ans à son domicile. C'était un professeur qui est devenu d'ailleurs proviseur. Ça se passait 3 jours par semaine pour éviter au jeune Patrice Evra des déplacements entre son domicile donc et l'établissement scolaire. Certains détails, franchement, sont sordides. Il n'empêche que c'est Patrice Evra lui-même qui explique notamment que vivre avec ça, dit-il, a été l'un de ses plus gros regrets, qu'il aurait pu aider tellement de gens. Et il poursuit, je préfère être une source d'inspiration et un exemple qu'une simple victime. Donc ma question est assez large. Le footballeur professionnel doit-il donner l'exemple ? Philippe Sanfourche.
Alors, c'est pour toi.
C'est très complexe. Et on l'a bien entendu avec votre exposé.
Longue exposé, mais qui s'imposait,
oui, mais qui
pense.
S'imposait. On touche à des domaines aussi divers que graves dans certains cas. Et il est bien impossible de pouvoir tout réguler, juguler de la même manière et avoir un regard, on va dire, uniforme sur la question. Ce qui est certain, c'est que le footballeur aujourd'hui, un peu comme pouvait l'être l'acteur de cinéma il y a 40 ans, porte en lui beaucoup de fantasmes, beaucoup d'attentes, et auprès des jeunes générations, des enfants, on sait qu'ils ont un pouvoir de fascination qui est important. Et en cela, on a envie, évidemment, qu'ils portent un exemple et qu'ils soient donc exemplaires plutôt que le reste. Mais ça, c'est sur le plan du jugement moral. On a plutôt envie que ce soit le cas. Maintenant, ça ne peut pas être une injonction. Parce que le footballeur professionnel, il n'a pas choisi de faire ce métier pour avoir une portée dans la société sociale, politique. C'est pas le but. Donc ça ne peut pas être une injonction. Après, là où on peut vraiment se positionner, en tout cas moi je le fais de manière très claire par rapport à ce que vous venez d'édicter, c'est sur la position du procureur. Là, en l'occurrence, et je sais que on a entendu, notamment sur cette antenne, l'avocat de Karim Benzema être vent debout par rapport à cette sortie. En quoi est-ce que, du point de vue de la loi, légalement, on peut imposer à un citoyen, du fait qu'il soit footballeur, qu'il devienne exemplaire ? Ça, pour moi, c'est, c'est,
C'est inaudible. Alors, c'est absolument inaudible.
Il y a une double question. Hein. Doit-il donner l'exemple ou doit-il être exemplaire? Il y a une nuance.
Déjà, ça dépend dans quel domaine.
Dominique Sévrac.
Il doit donner l'exemple dans sa matière sportive, dans sa discipline. C'est-à-dire que moi, quand j'apprends que Lance Armstrong se dope pour gagner des choses, pour moi, c'est terminé. C'est plus un sportif, c'est un délinquant. Il sort de mon paysage, j'ai plus aucune admiration pour lui. Pour moi, il a triché, c'est fini. Quand j'apprends que Bernard Tapie achetait un match de football pour être champion de France, c'est terminé, ça m'intéresse plus. Donc, un sportif, ça doit être exemplaire dans sa discipline. Après, dans le reste de sa vie, Mauro Icardi fait ce qu'il veut de sa vie privée, il voit qui il veut, il mange avec qui il veut, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de lui pour savoir qu'il faut être fidèle, j'ai besoin de personne. Moi, les sportifs sont pas mes maîtres à penser. Pour ça, je vais dans les bouquins, j'étudie les philosophes, mais j'ai pas besoin de Mauro Icardi pour savoir ce qu'il y a de bien et pas bien dans la vie.
On va
ça,
y revenir. C'est
ma propre
éducation. On va y revenir, car ça impacte malgré tout, c'est désormais son rendement sportif.
Et je distingue de votre de cas celui de Patrice Evra, qui lui ne donne ni l'exemple, ni pas l'exemple, lui fait œuvre d'utilité. Grâce à sa notoriété et en médiatisant le drame qui lui est arrivé à 13 ans, c'est-à-dire les attouchements sexuels dont il a été victime, il contribue à la libération de la parole. Et ça, c'est très utile parce qu'il y a plein de gens qui sont victimes de ça, qui n'osent pas parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont vécu un traumatisme. Et le fait que des personnalités très connues, comme Patrice Evra, dans le monde du football, ça aide les gens à prendre conscience du drame qu'ils ont vécu, parce que parfois on est dans le déni, et ça permet d'en parler, de s'ouvrir, voilà. Donc ça, c'est fantastique ce qu'il a fait, Patrice Evra.
Donc
c'est
très courageux.
Mais le reste, c'est, sur le sport, moi, j'attends pas de Karim Benzema qui me dise ce qu'il y a de bien et de pas bien à faire avec une sextape. J'ai pas besoin de lui pour savoir ce qu'il faut
alors,
faire.
Alors, je n'ai pas entendu Stéphane Powell, c'est Sébastien Tarrago, mais alors la question a pu être différente.
Ils ont été brillants.
Finalement, est-ce qu'un joueur de foot professionnel de notoriété est un citoyen comme les autres?
Il y a tellement de cas différents. Concernant le cas Benzema, ce que dit Philippe est tout à fait juste. Face à la loi, j'ose espérer qu'il ne sera ni au-dessus ni en dessous. Il doit être un citoyen normal et être sanctionné de manière normale s'il doit l'être et être relaxé s'il doit l'être.
Présomption d'innocence, jugement le 24 novembre.
Voilà, c'est tout, point barre. Ça, c'est vrai que c'est scandaleux ce qui a été dit à la cour. En revanche, après...
Scandaleux qui a été aidé à la cour, c'est-à-dire
qu'on dise qu'il doit être plus exemplaire que les autres parce que
ça n'a aucun sens. C'est le procureur.
Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Après, en revanche, il ne faut pas non plus faire passer Karim Benzema, même ses avocats n'osent pas le faire, pour une victime. C'est-à-dire que, en revanche, moi, je trouve que sur le plan sportif, ce qu'il a fait. Était tout à fait scandaleux vis-à-vis d'un coéquipier, vis-à-vis de l'équipe de France, vis-à-vis de l'institution.
Sur le plan sportif.
Oui, parce que à partir
ou sur le plan des relations qu'il a à Clairefontaine.
À partir du moment
avec un coéquipier.
À partir du moment, alors l'affaire elle n'est pas jugée, mais le fait est que il n'y avait pas beaucoup de bienveillance de la part de Karim Benzema à l'égard de Monsieur Valbuena.
On oublie d'ailleurs que Valbuena est la première victime.
Il y a des écoutes téléphoniques qui sont terribles. Terrible. Et je trouve que de la même manière que le terrain doit être sanctuarisé par rapport aux supporters, eh ben écoutez, je pense que Clairefontaine, un lieu où se rassemble l'équipe de France, doit être sanctuarisé aussi. Et ce n'est pas le lieu pour Karim Benzema d'essayer d'intervenir dans une affaire comme celle-ci. Donc, les écoutes, encore une fois, sont terribles.
Oui, mais alors je précise que les écoutes ne révèlent rien sous forme de chantage ou d'extorsion. Rien. Simplement un vrai mépris pour Mathieu Valbuena.
Ah oui, ça va au-delà du mépris, mais il y a de l'insulte, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je vais pas rentrer. L'affaire, elle est pas jugée, donc on verra.
Raison,
mais
en tout cas, d'accord.
Je trouve que par rapport à ce qui est sorti, Karim Benzema à cette époque-là, il n'est plus le même aujourd'hui. Il a joué contre l'équipe de France. Il a joué contre son équipe. Point barre. Et ça, pour moi, sportivement, ça devait être sanctionné.
Et il a aussi joué contre sa propre carrière. Il a disparu de la circulation pendant 5 ans. Et on oublie peut-être un peu trop, j'arrive Stéphane Powels, que la vraie victime, en l'occurrence, c'est quand même Mathieu Valbuena.
Nous sommes d'accord. Je suis en train de bouillir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé ce que disait Dominique en disant à un moment avec Armstrong des exemples. Voilà, nous on aime le sport. Que ça se passe normalement. Vous avez parlé de trois cas au début de l'intervention.
Qui sont totalement différents.
Je vais vous donner mon point de vue. D'abord sur l'histoire de Benzema, s'il ne s'appelle pas Karim Benzema, on n'en fait pas tout un foin, surtout avec les prestations qu'a fait l'équipe de France maintenant. Nonobstant, je suis bien sûr pas d'accord de ce qu'il a fait de la manière de ce que vient de dire Sébastien.
Donc là, Stéphane Powes relativise ce que Benzema a pu faire à Clairefontaine.
Je ne relativise pas. Je dis qu'à un moment, il faut arrêter d'en faire une histoire d'affaire du siècle tous les jours dans une situation où je pense qu'il y a d'autres préoccupations. Il faut punir s'il y a des choses graves qui ont été faites, mais il faut arrêter d'extrapoler. Ça, c'est un point de vue personnel. Deuxième chose, sur M. Evra, effectivement, c'est dramatique ce qui est arrivé là. Et moi, je ne parle plus du comportement d'un joueur de football, puisque sa carrière est arrêtée, et il parle d'un drame personnel, comme tout le monde peut malheureusement parler de ce genre de drame, et en disant, effectivement, si lui peut apporter un regard éveillé sur ce qui peut arriver dans le monde du sport ou de la scolarité...
Et il met surtout sa notoriété, là, pour le coup, au service.
Oui, mais attendez, Christian, sa notoriété, il a aussi fait le con à un moment,
Différent,
et bien, si c'est différent, j'essaye de vous dire qu'il n'est, donc, pour moi, considéré dans cette affaire-là, pas comme un joueur de football, comme un mec, malheureusement, très connu, qui a subi des choses graves et il faut intervenir. Et votre troisième chose...
Je voudrais quand même... Je voudrais qu'on s'attarde. On ne peut pas évacuer le sujet à Evra comme
mais
ça,
je n'évacue
d'un
pas,
revers de manche.
Je ne vais, mais c'est pas ce que je dis.
C'est un traumatisme terrible, terrible, qu'il a travaillé pendant toute sa carrière. Et d'ailleurs, il serait intéressant, sans faire de la psychanalyse de comptoir, il serait intéressant d'ailleurs de se repencher sur les comportements.
Mais c'est ce que je voulais vous dire.
De ce qu'il a pu connaître à l'âge de 13 ans.
Si je veux juste
ce que je veux dire, et je terminerai avant que tu ne termines, ce que je veux dire, je ne veux pas qu'on relativise ce que Patrice Evra dit. Et surtout que s'il met sa notoriété actuellement de retraité international, mais donc de joueur extrêmement connu qu'il a été au service de quelque chose qui est quand même sensible et difficile.
Vous m'avez enlevé quelque chose que je voulais dire, c'est ce que moi, et quand vous parlez de l'importance des joueurs de football qui peut faire passer les messages, moi j'aurais aimé que M. Evra, et je sais que c'est facile de le dire qu'il le dise avant,
on peut pas.
On aurait pu faire avancer les choses.
Chaque
vous avez lu mon bouquin, je pense que vous savez que j'ai vécu des choses de jeunesse aussi.
Très bien,
à un moment, on les garde pour soi ou on les sort pour faire avancer les choses.
Non, oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, chaque situation traumatisante et personnelle, on ne peut pas juger là-dessus.
Mais votre question était de savoir l'exemple des joueurs de football. Et la troisième chose, sur le troisième cas, sur le joueur du Paris Saint-Germain, de sa vie privée, nous sommes en 2021, et il y a ces réseaux sociaux. Je pense qu'il n'est pas le seul dans tous les domaines artistiques où il y a des artistes qui parlent de leur vie privée, d'autres ne le font pas. Icardi, mais son épouse le fait. Bon ben voilà.
Stéphane, moi, j'ai ça pas se monétise. Ça se monétise.
Alors ça, j'ai envie de vous dire, je suis contre.
Elle a gagné cette semaine 1 million de followers sur Instagram.
Dominique, je voulais juste terminer sur ça. Je suis contre que les joueurs de foot, et d'ailleurs ça pollue des vestiaires, ça pollue des clubs même, sont en train, mais quels que soient les joueurs, parlent sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas, on doit vivre avec notre temps, ça existe, et on ne peut pas montrer du doigt Icardi en disant c'est un mauvais exemple parce que sa femme a mis des trucs sur les réseaux sociaux.
C'est peut-être pour faire du fric tout ça aussi. C'est embêtant.
Concernant Patrice Evra, vous avez bien raison de rappeler qu'à titre individuel, évidemment que chacun parle quand il en a envie, s'il en a envie et quand il s'en sent capable.
S'il le peut.
Exactement. En revanche, c'est pas un débat inintéressant parce qu'en général, c'est vrai que ces choses-là ne sont jamais dites pendant la carrière. Il ne s'agit pas de dire, il aurait dû le dire, évidemment que non. Mais si ça n'arrive jamais ou très rarement, ce n'est pas par hasard. C'est parce que aussi, on est dans un monde où la moindre faiblesse est peu acceptée. La moindre faiblesse psychologique, dépression, ce n'est pas accepté. D'ailleurs, ce n'est pas accepté dans le monde du travail tout court.
Absolument.
Bien sûr.
Tout à fait.
Surtout dans le monde du foot, ce que tu dis là.
Oui.
C'est surtout dans le monde du foot.
L'homosexualité, puisqu'il y a encore un joueur anglais qui, sous couvert d'anonymat, s'est exprimé cette semaine en disant qu'il aimerait bien faire son coming out, mais qu'il ne le fait pas parce que sa carrière en serait très endommagée. Bref, toutes ces choses-là, gravissimes, ne sont pas dites aussi par la nature du sport, en fait, et par l'absence d'acceptation de l'état
sport,
de faiblesse.
Pas que le sport,
c'est pas une faiblesse.
Regardez ce qu'il se passe dans le domaine.
C'est considéré comme ça, Dominique.
Oui, parce que c'est un milieu hétéronormé, homophobe.
Malheureusement, ce serait une avancée extraordinaire que ici, un joueur dise qu'il est homosexuel, un joueur en activité.
Je suis d'accord avec toi, Sébastien.
En Angleterre, il y en a plusieurs joueurs qui sont à deux doigts de faire
le très bourgeois milieu tennistique l'accepte plus, j'ai l'impression, puisque par exemple, Amélie Mauresmo a fait son coming out pendant sa carrière, et je ne crois pas qu'elle en ait été.
Mais c'est pas inintéressant ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus accepté, je parle du sport encore, chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes, dans le monde du football par exemple, n'y a aucun souci avec ça. Tout le monde sait certaines sont en couple, même qu'elles ont des enfants.
Sont mariées.
Enfin bref, elles sont inscrites dans la société normale. Or, chez les garçons, cela n'est pas le cas.
Parce que c'est un milieu homophobe. Le football est homophobe.
Bien sûr.
On va tourner une page. C'est un sujet vraiment délicat.
C'est un vrai sujet. C'est intéressant.
C'est très intéressant.
L'histoire de le dire pendant la carrière ou après, sans juger quiconque, voilà. Évidemment.
On s'est d'accord. Moi, je serais bien qu'ils le disent avant. J'aurais bien aimé.
Tu aurais bien aimé, mais à titre individuel, tu ne peux pas parler à la place de la personne qui a vécu ça, Stéphane. Donc, je veux dire, chaque cas individuel, chaque cas personnel.
J'ai attendu 30 ans, moi, avant de parler de mes histoires.
Je comprends. Regardons ce qui se passe dans un autre domaine qui n'est pas le domaine du sport, le rapport Souvé là qui est avec l'Église.
Votre question c'était est-ce qu'ils doivent montrer l'exemple. Eh bien, ce serait chouette. Je sais que c'est difficile à l'entendre qu'ils le disent pendant pour faire bouger des choses.
Mais j'en parle parce que la société évolue aussi.
Mais absolument. La page de pub, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose sur Icardi, qui s'en sort bien, le Icardi. Mais on va peut-être en parler. Puis tranquillement, on viendra d'ailleurs sur Marseille, Paris Saint-Germain, le match de demain soir. Le classique, et non pas le classique aux publicités.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Dans 7 minutes environ, nous rejoindrons nos amis de Doxa pour le sondage baromètre sur l'Olympique de Marseille et sur le classique Marseille-Paris-Saint-Germain de demain soir sur l'antenne de RTL. Donc on va essayer de faire une petite transition avec notre ami Icardi dans les trois dossiers, dans les trois cas que je vous soumettais, Benzema et Patrice Evra. Icardi qui, avec madame, qui s'affiche sur les réseaux sociaux.
Dominique connaît bien le dossier.
Il a envie de le faire.
Ce que je peux vous dire, ce qui est assez entre guillemets rigolo, c'est qu'en Argentine, Vandana Ara, sa femme, est une star absolue. Et donc, il y a eu l'équivalent de nos LCI, nos RTL. BFM.
Georges Quirino, notre correspondant.
On fait des breaking news.
Absolument.
Et les gens ont noté une baisse de fréquentation dans les restaurants et les cinémas. Les gens regardaient le feuilleton et n'allaient plus faire autre chose.
Télénovela.
Donc voilà, donc ça nous fait rire. Bon, après, c'est pas drôle, c'est l'histoire conjugale, mais bon, quand on est leur M500, et je vous redis ce que je vous ai dit.
Bah oui, mais là, pour le coup, on a le droit d'en rire. Parce que s'il l'étale comme il l'étale, ils vont pas se plaindre.
Alors, est-ce qu'il donne l'exemple en étalant sa vie privée
si
sur les réseaux sociaux? On est d'accord que non.
Est-ce qu'il veut de sa vie,
on peut se demander si tout ça est vrai, tellement il y a de rebondissements et tellement c'est scénarisé. Et on peut se demander si c'est pas pour monétiser un petit peu tout cet art.
Après, la seule chose, pour revenir au sport.
Non, Sébastien, information, Dominique, c'est vrai.
Non, je peux se demander.
Je
suis pas sûr qu'on soit dans le domaine de l'information.
Tout est monté de toutes pièces.
Je prendrais pas un mois pour enquêter. Je vais continuer à faire des débats.
Vous supputez.
Non, mais tout est tellement romantique.
J'ai rien compris d'ailleurs, parce que vous dites que c'est pour avoir des followers, mais
est-ce
que
ça se monétise tout ça?
Oui, mais il semblerait que madame bloque tout le monde maintenant.
Elle a gagné 1 million de followers en une semaine.
Mais sur Instagram, paraît-il qu'elle bloque tout le monde?
Bah, elle n'a pas bloqué 1 million de gens déjà. Bon. Elle est passée de 7
à 8. Non, mais c'est un business. Et de toute façon, il y a une mise en perspective permanente de la vie privée de ce couple qui peut un peu choquer, parce que parfois il y a des photos d'enfants et puis sur la page d'après on voit madame dénudée, c'est quand même extrêmement hétéroclite tout ça. Bon, on en pense qu'on veut.
Très dénudée quand même.
Très dénudée.
Ça c'est une constante chez elle.
C'est une constante.
Sur Instagram, alors.
Et non, le fait est,
heureusement il y a des filtres.
Que c'est un spectacle permanent qui est orchestré. Et qui fait partie, globalement, du personnage.
C'est du théâtre.
Bankable.
C'est du théâtre.
Mauro Icardi. Et après, on en pense ce qu'on veut. C'est bon, c'est par rapport au sujet lourd qu'on a évoqué avant. On est sur quelque chose de plutôt léger.
Absolument.
Là où ça commence à poser un tout petit peu problème, à mon sens, c'est qu'on parle quand même d'un garçon qui est, c'est pas Lionel Messi, mais c'est quand même un des plus gros salaires de Paris Saint-Germain.
Entre 11 et 12 par an.
Et on décrète
entre 11 et 12 millions d'euros par an.
Ce monsieur qui d'un seul coup a des problèmes conjugaux, eh ben, va pouvoir partir 3 jours, 4 jours à Milan pour aller retrouver madame. Et puis s'il manque l'entraînement, bah c'est pas très grave. Et puis s'il joue pas le match de Ligue des Champions, eh ben on fera sans. Et puis aujourd'hui, à la veille de Marseille Paris Saint-Germain, bah, l'entraîneur Mauricio Pochettino nous parle de Mauro Icardi comme un garçon qui a un mental d'acier et qui va se
on a l'impression qu'il a eu une grave blessure.
C'est ce qu'il a dit pour Philippe,
de quoi on parle
pour le coup? Moi, j'ai souvent été très sévère avec l'institution PSG. Pour le coup, dans cette affaire-là, je comprends les dirigeants parisiens.
Non.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où
ils peuvent rien faire, ils sont prisonniers.
Non, mais on n'y croit pas à cette histoire, c'est vrai. Mais à partir du moment où vous avez un salarié qui vient et qui vous dit à quel point il va mal et qu'il veut sauver sa famille...
Non.
Ah, mais laisse-moi finir juste la phrase. Pardon. Pas de problème, Stéphane. Pardon. Pour l'instant, ça se passe bien. Continuons ainsi. Ça fait du bien. Et je te laisse parler derrière. Mais pour le coup, moi, je comprends les dirigeants. Voilà. Il veut sauver, il dit qu'il veut sauver sa famille. Il demande à aller à Milan. Moi, si je ressentais ce besoin-là, j'aimerais qu'on me donne l'autorisation de le faire alors que je dois travailler. Voilà, c'est tout.
La réponse courte, concise, Stéphane Poët.
Ben, on parlait avec Bols qui prend une décision et qui ne fait pas jouer Paqueta parce qu'il arrive 5 minutes en retard. Et là, on a un mec, parce que c'est une histoire de cul, excusez-moi, qui n'a rien à voir avec le terrain. Et on était en train de me dire, Sébastien, que l'institution, elle doit comprendre. Elle ne comprend rien du tout. Il est payé comme joueur de foot. Il vient, il joue, il s'entraîne. Il faut arrêter de nous emmerder avec des histoires de fesses, quoi.
C'est pas l'armée.
Et donc, tu travailles à l'usine et tu vas venir dire à ton patron ou dans un bureau parce écoutez, ma femme, elle va marquer, ça arrive dans les tout le monde, je ne viens pas travailler. Je ne suis pas bien.
Ma femme a mis sur Instagram des photos qu'on ne sait pas.
Ah bon, j'en discutais avec Philippe Sanfourche en préparant cette émission cet après-midi. Philippe, ce n'est pas trahir quand même un secret de dire aux auditeurs, aux millions d'auditeurs de RTL, que tu me donnais l'exemple du plombier qui avait un problème avec son épouse.
Oui, alors j'ai rien contre les plombiers.
Non, mais c'est un l'électricien qui a un problème avec son épouse et qui demande à son patron 2 heures de battement. Voilà, c'est ça.
Dans 99% des cas, une personne lambda qui est confrontée à ce genre de problème va appeler son patron en disant j'ai eu un problème avec la voiture, elle tourne en panne, j'ai 2 heures de retard.
Ce qui me dérange, c'est que le type il est payé 12 millions d'euros.
Mais voilà, c'est ça, mais ça arrive tous les jours.
Ce sont des enfants gâtés. Mais la publicité, on ferme.
Allez, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite n'est pas encore la fin dont fait le match 30 minutes et il y a des sujets qu'il faut absolument qu'on évoque. Les arbitres et les micros, la défense à 3, ça m'intéresse. Il y a plein de choses.
L'argent, les fous,
les tirs au but. Alors je vais essayer de retrouver mes fiches et on va avancer le sujet. Non, d'ailleurs, c'est l'heure. C'est l'heure de parler de Marseille-Paris Saint-Germain.
Ah oui,
voilà, j'ai oublié quelque chose. Ce sont d'abord les résultats de Ligue 2 avec Baptiste.
Absolument, on joue depuis une demi-heure dans ce multiplex de Ligue 2. L'AC Ajaccio mène toujours 1-0 face à Nancy, 0-0 entre Amiens et Valenciennes, 0-0 également entre Dunkerque et Caen. Grenoble mène face à Dijon 1-0, 1-0 pour Guingamp face à Nîmes, 1-0 pour Le Havre également face à Pau, 0-0 entre Niort et Rodez et Quevilly-Rouen qui mène sur la pelouse de Sochaux 1-0. On rappelle que Paris FC Toulouse s'est soldé sur un match nul, 2 buts partout.
Et les messages sur @RTLFoot.
Ils sont nombreux comme d'habitude. Victor sur l'affaire Wanda et Mauro Icardi, il nous dit c'est le meilleur vaudeville de l'histoire, la meilleure série, une histoire comme un multiplex avec des buts toutes les 30 secondes. On n'en a rien à faire en réalité, mais on s'est bien marré, ce que nous dit Victor. Et en tout cas, il rajoute aussi la petite nuance, c'est que ce genre de choses n'existe qu'au Paris Saint-Germain. Paris est décidément magique. Et beaucoup de messages sur l'exemplarité et le sujet qui a été abordé précédemment. William nous dit c'est pas le cœur de métier des footballeurs, c'est pas marqué sur leur contrat, mais oui, quand tu es pro, médiatisé, tu as de facto une responsabilité et un devoir d'exemplarité. Mickaël nous dit ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est le fair play et tout ce qui va avec. Quand tu es pro, tu es l'étendard de ta discipline, celui du club ou le pays dont tu portes le maillot. Le reste, en dehors du rectangle vert, ça nous regarde pas, comme dirait l'autre. Et message d'Hugo, la réponse est non, ils n'ont pas l'obligation de donner d'exemple, ce ne sont pas des hommes politiques, n'ont pas pris d'engagement ni prêté serment. Considérons-les comme ce qu'ils sont, des hommes et des joueurs de football, point final.
Merci beaucoup Baptiste, et je rappelle que dans le match de 17h, c'est une info, Nantes a battu Clermont sur le score de 2-1. Marseille-Paris-Saint-Germain demain soir sur l'antenne de RTL. Je ne sais pas si vous avez vu la magnifique pub sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite avec le slogan non moins magnifique « Revivre ensemble », où l'on voit une supportrice marseillaise, un supporter parisien, évidemment amoureux, qui s'embrasse. Alors, je remercie notre président du groupe, Nicolas de Taverneau, qui a retweeté.
Vous avez bien raison.
Qui a retweeté.
Si j'étais vous, je le féliciterais aussi. Je le remercierais aussi.
En rappelant que le match était sur RTL demain soir, bien évidemment.
Tout est brillant.
Il y a une chose qui me chagrine.
Vous voulez dire qu'il fait de la pub pour
Monsieur
ses propres
Monsieur le Président, Nicolas de Taverneau, il y a une chose qui me chagrine. La terminologie classico que vous employez. Non, Monsieur le Président, non. Ce n'est pas un classico. C'est un classique. Le classico, c'est Barcelone-Real. Il aura lieu demain à 16h des Brouettes.
16h15. Mais il n'y a pas assez de caractère.
Je n'ai pas terminé ma démonstration parce que c'est un combat qui date depuis ma naissance. Le super classico, c'est Boca River Plate en Argentine. Mais monsieur le président Nicolas Taverneau, non, ce n'est pas un classico. Et, bon, c'est peut-être à moi de me poser les bonnes questions.
C'est quoi
voilà. C'est un classique.
Mais depuis quand?
Mais écoutez, je vais vous dire, tout le monde dit classique, tout le monde a compris que le classico, c'était quelque chose inventé par Canal et par Bernard Tapie au début des années 90 pour mieux vendre.
À l'époque, on parlait pas de classico.
Non, on parlait pas de classico.
À l'époque, on parlait pas de classico. Non, le mot classico, il est arrivé il y a 10 ans.
C'est un peu
plus que ça. Plus
oui,
que ça.
Mais vous parlez de deux choses différentes, si je peux me permettre, Christian.
Bien sûr.
Vous parlez d'une rivalité qui a été montée de toutes pièces au début des années 90. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, c'est devenu une vraie rivalité. Pour le coup,
ça a marché,
ça a fonctionné. Et après, vous parlez d'une appellation classico qui effectivement est un peu ridicule.
C'est du marketing.
Non,
je n'ai pas dit qu'elle était ridicule parce que Monsieur le Président a employé
une expression. Monsieur le Président,
elle est un peu facile. Elle est un peu facile.
Non, mais c'est ça n'a pas de sens. Mais on s'en fiche. Mais le mot classique.
Je ne m'en fiche pas.
Il vous plaît vous le mot classique? Je comprends pas.
C'est un classique. Comme
c'est quoi ce truc?
C'est classique.
Le mot classique, je trouve ça pire. En fait, classico, au moins, ça fait référence à la
Christian.
Au football, à l'histoire du football, le mot classique, c'est quoi, la musique classique,
c'est beaucoup plus classique.
Mais non, un classique avec un C majuscule, c'est quelque chose, je trouve, de soyeux, de noble.
Oui, mais
il y a eu des Bordeaux-Marseille, ça a été classique. Il y a eu des
Bordeaux-Marseille, jamais on disait que c'était un classique.
Alors, je vais vous dire, tout simplement, parce qu'on veut comparer la qualité d'un classico Paris Saint-Germain-Marseille avec la qualité d'un classico Real Madrid-Barcelone. Rien à voir.
Non, mais ce qui n'est pas exclu que le match soit plus intéressant que le Real de Barça aujourd'hui.
Ça, c'est conjoncturel, Philippe Sanfourche.
Vous me parlez. Non, mais là, je trouve, mon cher Christian, qu'on s'excite pour beaucoup et pour rien. Parce que, effectivement,
je vois surtout que vous faites du zèle.
Non, je ne fais pas de zèle. Et si le monsieur le président nous entend, je suis vraiment bien dans cette belle maison. Juste pour vous dire que le mot classico, effectivement.
Vous nagez bien,
non,
chef.
Je nage très bien. Oui, chef. Je pense vraiment que. Je pensais que vous alliez venir sur ce thème-là, qu'effectivement, les amoureux du ballon en Espagne et du championnat espagnol, ils aiment. Et je pensais que vous étiez espagnol d'ailleurs quand vous revendiquez ça. En disant j'aime ce mot classico parce que ça fait partie du championnat espagnol.
Parce que ça fait partie de l'imaginaire.
Mais
de
ça me choque pas que en termes de marketing, on vient de dire que ce match-là, il s'appelle classico. Il y a que vous qui s'excite avec ça. Je comprends pas.
Vous savez qu'en Espagne, ils s'en foutent complètement qu'on appelle ça le classico en France.
Mais je m'en fous, je suis français. Bon, et vous êtes les premiers pour mettre sans tête à vous insurger contre le marketing qui tue le football. Et là, vous êtes en train d'ériger une marque.
Mais c'est du décorant, Christian. C'est pas important.
C'est du comique. C'est pas important. C'est pour vendre
ça. Appelez ça comme vous voulez, si vous appelez ça classique. Moi, je suis PGOM.
Si c'est du folklore, comme le dit Philippe Sanfourche, je prends. Si c'est du décorum, comme le dit Sévrac, je prends. Si c'est du comique, comme le dit Stéphane Poels, je prends. Très bien, mais je restez dans vos.
Mais on va rester dans le classique.
Et si c'est si c'est du présidentiel, on prend aussi. Si c'est Nicolas Taverneau, on prend.
C'est la marotte de Christian Olivier.
Moi, de toute façon, si mon patron dit c'est classique, c'est classique.
J'ai quand même gagné en partie le combat, mais je sens que je suis en train de le perdre de nouveau. On entend classique partout maintenant.
Parce que c'est ancré dans les habitudes et c'est bien la preuve que ça correspond à quelque chose.
Classique.
La FPI dit classique.
Si vraiment vous voulez.
L'agence France Presse dit c'est un classique.
Et les pubs annoncent.
Si vous pouvez dire ni l'un ni l'autre, ce serait bien aussi.
On peut dire que c'est une forme de classico à la française.
J'appelle Émile Leclerc. Est-il là? Bonsoir, Émile Leclerc.
Bonsoir.
Directeur des études pour Odoxa.
Et qu'est-ce qu'il en pense, Émile?
Alors, on n'a pas posé la vérité, c'est qu'on n'a pas posé la question aux Français, Émile Leclerc. Classique ou classico? Sondage, baromètre pour Odoxa, RTL et nos amis de Kenéo sur ce match Marseille-Paris Saint-Germain, et c'est une rencontre qui a un véritable enjeu sportif, et la question méritait d'être posée, car le PSG pense un peu trop peut-être à la Ligue des Champions, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Alors, le match avait perdu un peu de sa superbe, puisqu'on avait interrogé les Français en 2015, et il y en avait seulement 24% qui nous disaient qu'il y avait toujours un réel enjeu sportif à ce match, et 46% chez les amateurs de football. Et là, on constate que ça progresse nettement. On est à 44% et 61%, donc ça fait plus 20 points et plus 15 points. Donc, on peut dire que le classique, classico, vous l'appelez comme vous voulez, mais il retrouve des couleurs, de l'intérêt, de la saveur aux yeux des Français. C'est un match qu'ils attendent davantage qu'au milieu des années 2010, où le PSG 2010 dominé et Marseille était un peu en deçà.
On peut pas le baptiser comme on veut. Vous l'avez baptisé, vous, le classique dans votre étude. Soyons sérieux.
En précisant, c'est-à-dire le match PSG-OM.
Voilà. Les bons résultats de Marseille sont une bonne nouvelle pour le football français.
Oui, les amateurs de football considèrent que c'est important que Marseille ait un club au plus haut niveau. 78% le pensent. 81% nous disent que ces bons résultats cette saison, c'est une bonne nouvelle pour le football français. Et puis, ils pensent même, ça va encore plus loin, ils pensent même quasiment les deux tiers, 75% nous disent bah, le club a le potentiel pour retrouver un niveau compétitif au niveau européen. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des amateurs de football.
Néanmoins, le Paris Saint-Germain est le club préféré à l'OM.
C'est ça. Quand on fait le match, alors ça fait quelques années qu'on fait ensemble ce petit match. Est-ce que vous préférez le PSG à l'OM ? Alors il y a évidemment les supporters des deux clubs, et puis plus largement les Français quand on les interroge. Pendant quelques années, jusqu'en 2018 à peu près, c'était à touche-touche du 50-50. Et là, on se rend compte depuis que le PSG repasse devant. On a 52% des Français qui préfèrent le PSG et 41% de l'OM. Chez les amateurs de foot, l'écart est encore plus net, hein, 58%, 40%. Et quand on regarde dans le détail des populations, on se rend compte qu'il y a un vrai marqueur, c'est l'âge. Plus on est jeune, plus on va préférer le PSG. Mmh. Et plus on est âgé, plus on va préférer l'OM.
Et pour terminer, Émile Leclerc, ça c'est une question qui va intéresser Sébastien Tarago, qui nous reproche parfois de ne pas parler assez football. Les joueurs conserveront un bon niveau physique toute la saison avec les méthodes de Sampaoli. C'est ce que pense une large majorité des Français.
Ou plutôt des amateurs de football. Effectivement, le pense, 68%. Alors c'est vrai que Sampaoli s'inspire de Bielsa. Et on a critiqué un peu parfois ces méthodes qui sont très exigeantes physiquement. Parfois, la deuxième saison, c'est plus compliqué pour les joueurs. Mais là, les amateurs de football pensent que les Marseillais vont garder un bon niveau physique toute la saison.
Ça, je veux bien voir.
Il y a plein de bonnes choses et plein d'infos. C'est vraiment très instructif. D'autres informations à 9h demain dans la matinale de Stéphane Carpentier avec les informations détaillées par Nicolas Georgiou. Merci beaucoup, Émile Leclerc.
Merci à vous.
Cet excellent baromètre concernant le classique baromètre RTL qui est néo grâce à nos amis de Doxa.
Bizarre ce sondage.
Non, ah bon pardon. Maintenant qu'Émile Leclerc est parti.
Mais non, mais venir dire. Bon, non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il a expliqué, parce qu'avec les jeunes et les anciens, que Paris est devenu, moi d'un regard extérieur, le club le plus aimé des Français. Franchement, je vous aurais dit.
C'est très simple.
Logique.
Je vous aurais dit Marseille.
Oui, c'est les jeunes.
Neymar, c'est très simple. Mbappé,
c'est un incendie parmi les jeunes dans les cours de récréation. Ah, donc, c'est. Il a au moins la moitié des gens qui il attire vers lui. Ouais. Et puis c'est un phénomène classique. Lyon, c'était comme ça dans la décennie 2000. C'est quand vous grandissez avec un club qui gagne, vous devenez amoureux du club qui gagne. Nous, on a vécu ça selon la décennie à laquelle on est. Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille.
C'est marrant. Ouais.
Voilà,
c'est
comme ça.
Bon, on a des infos sur ce match.
Et Neymar sur Sampaoli,
Neymar et Icardi sont dans le groupe. Christian, qui sera livré demain matin, qui sera connu, dévoilé demain matin.
Quelle force mentale.
Ils partent demain matin pour Marseille, comme Philippe Sansfourche. Pas le même train. Et à part Paredes et Ramos, qui pour l'instant n'est toujours pas redevenu footballeur, il n'y a pas de blessé notoire. Tout le monde est à disposition pour Pochettino, qui devrait. À mon avis, rejouer avec les quatre de devant, Messi, Di Maria, Mbappé, Neymar.
Et sur Marseille, vous avez des choses à dire.
Vous avez vu le match en Europa League, ils ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup contre la Lazio. Moi, tout à l'heure, dans le sondage, à Sampaoli, les gens, moi, je vous dis qu'ils vont exploser. Moi, je vous dis que c'est en fin de match, ils sont physiquement dans le dur. Cette équipe, alors ça, c'est moins vu.
Il y a toujours un risque à s'avancer comme ça.
Ah non, mais moi, je m'avance parce que là, on va pas parler contre la Lazio parce qu'il y avait une surmotivation. Mais je pense que cette équipe, elle va être dans le rouge. Ces rotations.
Mais aussi, ils seront surmotivés. Il y a des rotations.
Mais aussi, ils seront surmotivés.
Moi, je veux bien vous en parler en début janvier, début février, dans quel état vont être l'équipe de Marseille. Mais pour dimanche, je pense qu'ils vont payer un peu l'énergie. Payet, il était déjà dans le rouge. Donc, il va être dans le violet. Il était déjà dans le rouge. Enfin, il est toujours dans le rouge. C'est un intermittent du spectacle. Il fait 20 bonnes minutes, 20 minutes. Donc il était, moi je l'ai trouvé en grande difficulté, je dis physiquement.
Il joue pas.
Moi cette équipe de Marseille, je suis pas convaincu. On me dit ils vont rentrer dans l'art de Paris. Ils vont peut-être rentrer dans l'art, mais ça va durer 30 minutes.
Vous savez ce qu'on va faire.
Si Paris te met un but, ça va être compliqué.
Guendouzi, c'est jeune.
Guendouzi, c'est un intermittent du spectacle.
Qui parie sur l'expulsion de Guendouzi dimanche?
Moi.
Non.
Moi,
je mets une pièce.
Un petit billet.
Moi, un petit billet.
Je mets une petite pièce.
Ça, c'est du football fiction.
Oui, à partir du moment où on parle des matchs qui vont arriver, on est dans la fiction.
On va faire le match.
Bah oui, mais invité dimanche soir.
Bon, les amis, on va tourner une page de publicité et je vais vous proposer un méga tir au but.
Un méga tir au but. Questions-réponses sur des thèmes d'actualité qu'on aurait pu évoquer en débat. Je les avais préparés. Je suis là depuis 10 heures ce matin. J'ai tout préparé.
Les faibles sont éliminés.
Mais on va donc les faibles seront éliminés et un point après le coup de sifflet de l'arbitre. Et on va essayer de d'évoquer tous les autres sujets
on
que j'aurais aimé.
Les scores, qu'on sache un petit peu si on est en retard.
Les scores. Oui, mais je peux vous les donner les scores.
Allez-y.
Alors 5 points. Attendez.
C'est honteux, monsieur.
Mais non, c'est scandaleux ce qu'il fait. Je veux savoir.
5 points pour Philippe Sanfourche et Gilles Verdez, mais qui n'est pas là ce soir.
Oui, tant mieux.
Qui sont collidaires. Et devant Tarago et Sévrac, 3 points.
D'accord. Et Pascal Pro n'est pas dans votre classement ?
Ah, mais Pro, il est sur notre planète.
Hors concours. Ça fait longtemps qu'il est sur notre planète.
Il fait autre chose. Vous savez, le football, Pascal Pro. Allez, la publicité.
RTL, on refait le. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Une méga séance de tir au but, vous le savez, les questions-réponses, vous vous exprimez rapidement et de façon pertinente, s'il vous plaît, après le coup de sifflet de l'arbitre. Les plus rapides marquent des points et les plus faibles quittent le studio. Donc, je plaisante, mais enfin, en tout cas...
Je m'en vais.
Je constate que ce petit jeu a eu un accueil relatif au tout départ et que maintenant, tout le monde s'engouffre dans
bah, surtout Dominique Sévrac.
Alors...
Il y a des failles dans le règlement.
Non, il n'y a plus de failles. Maintenant, tout est réglé. Ah comme, bon. Sur
c'est comme dans les vestiaires, c'est les égaux.
Alors, on aurait pu faire un gros débat sur la défense à 3. Moi, j'estime que c'est vraiment la mode du moment. Il y a des risques. Mais on en fera un vrai débat, mais on va en faire simplement une question d'actualité. Défense à 3. On le voit avec Pochettino. Alors ça a marché puisque Messi a égalisé 2 minutes après. Bon, ça marche puisque Deschamps avec la Ligue des Nations défense à 3. Ça marche puisque Chelsea a gagné la Ligue des Champions, etc. Mais ça marche pas toujours. Ça marche aussi parce qu'il y a des clubs français qui le font. Strasbourg, Lorient, Lens, Monaco et Marseille. Défense à 3. Évolution ou révolution en carton.
Stéphane, tu as raison, Christian. Ça fait un
j'ai
point
dit
pour
Stéphane.
Moi.
Non,
j'ai dit Stéphane. J'ai commencé, ça fait un point.
Vous vous moquez de l'arbitre?
J'ai dit
non, je me permettrai pas.
Attention.
Je me moque du règlement, c'est pas pareil.
Vous ne respectez pas le règlement ? Sébastien Tarago.
Au fait, mais avec un carton,
oui. Ah, c'est brillant.
J'ai dit Stéphane.
On réclame des sanctions à ses petits copains. Ça
c'est très bien. Ce qui a la main.
Quoi ?
Moins un, Sébastien Tarago.
Pas de problème.
Quand on parle avec tous les grands entraîneurs, mais les grands, ils te disent tous pour jouer à 3, il faut 3 grands défenseurs. Quand je dis 3 grands défenseurs, c'est de la vitesse, de la lecture du jeu et de l'engagement physique. Donc, je constate quand même dans plein d'équipes, et notamment par exemple avec le Diable Rouge, il faut jouer à 4. On ne les a plus, de Neyer, Célan et compagnie. Donc moi, je pense qu'une défense à 3, ce n'est pas une révolution. Ça peut se jouer que quand on a des joueurs de qualité. Alors, vous allez me contredire avec Paris. Moi, je pense que Paris devrait peut-être jouer à 3, mais parce qu'ils ont des qualités sur les flancs, en jouant avec une qualité...
C'est surtout devenu la solution de facilité des entraîneurs qui ne trouvent pas de remède au non-repli de leurs attaquants. C'est-à-dire qu'on passe à 3 derrière, parce qu'on a des attaquants, alors ça peut être en équipe de France, ça peut être au Paris Saint-Germain, avec des attaquants qui sont peu tournés vers les efforts défensifs, peu tournés vers aider les copains qui défendent. C'est-à-dire que comme pour pas laisser tout seul Ganagay courir dans le vide comme un fou, on imagine passer à 3 en se disant on va stabiliser au moins l'axe là où les attaquants.
Mais
c'est pas une révolution tactique.
Mais c'est pas que ça.
C'est souvent la solution de facilité.
Ça dépend des joueurs que tu as en fait. Moi, je trouve que ça peut avoir un intérêt, par exemple, en équipe de France, parce que tu as ce problème Griezmann, Benzema, Mbappé, et que pour les mettre dans les meilleures conditions, c'est un système qui est intéressant. Moi, je pense que ça peut être, dans ces cas-là, quelque chose de positif. Mais le vrai souci de ce système, c'est que quand tu te retrouves avec 3 défenseurs centraux et qu'en face, tu as un attaquant, après, c'est très facile pour l'adversaire d'attirer les autres axiaux beaucoup plus haut, de jouer avec la profondeur, de jouer avec les espaces. C'est un système qui est très difficile.
Et il faut de vrais pistons. Il faut de vrais pistons. Bavard en équipe de France, tu n'es pas un piston.
Tu as raison. La petite conclusion, Philippe Sanfourche.
Oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a des modes. À une époque, ça, on avait le 4-4 de losange, ou alors
le
sapin de Noël avec Carlo Ancelotti. On a toujours des modes comme ça, et en ce moment, on est là-dessus. En revanche, ce qui ne change jamais, c'est que, et notamment en matière de défense, c'est que ce sont les automatismes, les habitudes, les complémentarités qui font l'efficacité d'un système.
Et
ce en quoi je ne crois pas, c'est le fait d'être alternativement d'un match sur l'autre.
Oui.
Et ben on est en 4-4-2. Bon. Et puis, oh, mais on a vu l'adversaire. On
va s'adapter. Paris, par exemple, c'est quand même très intéressant sur les latéraux.
Les grandes équipes, c'est un schéma imposé aux autres.
Je garde ce débat très intéressant. On le refera version longue, si vous me le permettez. Mais je voudrais dire quand même que le 3 défenseurs, ça date de l'entre-deux-guerres.
Bien sûr.
Il y avait le fameux WM, le 3-2-5. C'était 3 arrières, c'était 2 milieux de terrain, c'était un inter-droit, un inter-gauche et les attaquants qui complétaient le dispositif.
Il y a 7 ans.
Et pour revenir, je termine, et pour revenir, les milieux de terrain revenaient à droite et à gauche, et c'est l'inter-droit et l'inter-gauche qui prenaient la place des milieux de terrain.
Il y a 7 ans, j'avais regardé, il y avait 14 clubs de 20 sur 20 en Serie A qui jouaient avec 3 défenseurs.
Bon. Donc, même temps, j'ai regardé aussi parce que j'ai travaillé. Il y a eu.
Il a besoin de le dire.
Il y a eu que 3-0-0. Depuis le début de la saison.
Mais oui, mais c'est le début de championnat est formidable.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a des courants d'air en défense.
Ah bah évidemment, ouais, bien mais sûr. Ça peut être formidable et ça peut être spectaculaire, mais de piètre qualité.
Bien c'est sûr. Plus...
Bah, les Belges, on joue à 3, on n'arrête pas de perdre.
Voilà.
On joue à 4.
Piètre qualité, voilà. C'est la conclusion de.
Oui, mais moi je préfère qu'il y ait du spectacle.
Attention, deuxième tir au but, les arbitres doivent-ils être équipés de micros, oui ou non?
Oui!
Dominique Sévrac.
Ah oui. Avant le sifflet. Alors avant le sifflet, c'est vrai. C'est moins doué.
Quoi?
Ah oui. Quoi?
La VAR, non. La VAR me dit non.
Oh, oh, eh
ben voilà, c'est validé. Voilà, mais c'est non, validé. Mais c'est sûr, merci. Il est arrivé.
Merci.
Il est arrivé dans le studio. Il lui a dit je trouve très beau.
Évidemment
que
vu qu'on ne comprend pas l'édition des arbitres, vu que les arbitres jouent les cow-boys, vu que le spectateur, c'est un spectacle et qu'on ne lui explique aucune décision, que j'ai toujours pas compris le but de Mbappé contre l'Espagne, évidemment qu'il faut qu'on ait le micro sonorisé.
Et que Gary Bion sache. Arrête de nous dire que ce seront les arbitres.
Vu que M. Le Graët interdit aux arbitres de venir parler.
Ils ne seront pas respectés. Les arbitres, mais c'est pas pour ça, c'est d'abord de pédagogie, on veut comprendre. Mais
évidemment, on veut comprendre.
Voilà, on veut comprendre. Stop, publicité et la suite des tirs.
On exclut encore les gens qui sont dans les stades.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Alors on va faire preuve un peu de d'indulgence.
Avec qui
on va redonner le point.
Non, mais moi j'en veux pas. Vous savez que celui qui gagne ce jeu, à la fin, invite tout le monde au restaurant. Choisi par les autres.
Je veux surtout gagner.
Même si l'indulgence est le début de la faiblesse, vous le savez. Bon, alors, l'UEFA qui cherche à lever des fonds, 7 milliards pour financer les clubs européens. La LFP qui est à la recherche d'un fonds également pour obtenir 1,5 milliard. Le foot français qui se délocalise avec le match Monaco-Lyon le 6 février, ce sera en Chine. Quelle signification vous donnez à cette actualité? Foot et fric, sauf qui peut?
Bah bien sûr, à pas du gain.
Oh, c'est limite, mais enfin je l'accorde quand même, allez.
Il ne vous aura pas échappé que pendant un an et demi, voire deux ans, il n'y a pas eu de rentrée d'argent et que donc le système est en péril du fait de ressources qui sont en baisse. Donc vous avez la moitié des clubs qui ont été obligés de contracter des prêts. Il va bien falloir les rembourser à un moment ou à un autre. Vous avez, dans le cas de la Ligue, on a fait suffisamment de débats ici et sur d'autres plateaux sur le fait que la poule aux œufs d'or a explosé en vol et que son substitut est loin d'être...
Vous avez quand même annoncé pendant la pandémie, et notamment ceux qui ont raté le championnat et ceux qui étaient victimes de ça, Lille, Lyon, Amiens, tous ceux qui n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient ou des places européennes ou ne pas descendre, qu'on allait au-devant d'une grave faillite du football français, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que la moitié de la Ligue 1 allait déposer le bilan. On est... Un an et demi après le premier confinement, celui qu'on appelle le vrai...
Les clubs ont régulé, mais ils ont fait des efforts.
J'entends pas que Saint-Etienne, que Nantes, que Bordeaux vont déposer le bilan. Je dis pas qu'ils sont en bonne santé. Mais est-ce que c'est pas une fuite en avant, encore une fois, du football, qui cherche toujours à
faire du pognon?
Jamais à réfléchir.
C'est exactement ce que
je voulais dire.
C'était ma question, c'était la réponse en partie.
C'est-à-dire qu'il y a eu la pandémie, donc il y a eu... des ressources qui ne sont pas entrées dans les caisses des clubs, c'est une évidence. Et comme on a un système qui est déjà déficitaire, qui est en déficit chronique, même quand la situation est normale...
C'est un prétexte. Pardon.
C'est un prétexte.
Les dirigeants du football n'ont aucune vision, aucune humanité,
c'est faire du
football. Rien.
Très vite.
Donc, leur seul but, c'est l'oseille. Ouais. L'oseille, rien d'autre.
Comme la Super League.
Donc là, ils se sont servis de la pandémie pour aller encore un petit peu plus loin. C'est tout.
Là, on a l'impression que le football mondial européen, UEFA et français est sur la ligne de crête.
Et effectivement, alors depuis qu'on a annoncé
chercher des fonds à ce point-là,
Mais ça avait commencé avec le trophée des champions en Asie.
Mais ouais, c'est justement ça. La délocalisation. Là, ça.
Ah, mais moi, je suis contre la délocalisation.
La délocalisation, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas très original ce que je vais dire.
Monaco-Lyon mais... en Chine.
Oui. Mais tout le monde s'en fout, personne ne va regarder.
Pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Hein.
Oui, oui, mais pour l'instant, ça a toujours été refusé par les instances, pour le coup, par la FIFA. Parce que l'Espagne a essayé de faire des matchs à Miami.
Tout à fait.
Mais c'est une honte absolue. Et dans le monde dans lequel on vit désormais, où quand même le sujet de l'écologie apparaît quand même
du bilan carbone
pour le moins important. Mais si, Christian, mais si, parce que c'est des exemples. C'est comme quand les joueurs de foot prennent des avions pour faire 120 km pour faire Paris, Paris.
C'est ridicule.
C'est important, Christian. Au-delà de ça, c'est totalement illusoire.
Oui, mais c'est un peu là dégoulinant de bon sens.
Mais si vous voulez,
non, mais ça fait partie du décor global. Et surtout, si c'était pour aller décrocher le contrat du siècle. Mais on sait très bien que c'est totalement illusoire. Comme par hasard, ça concerne deux clubs qui ont, pour l'un, des actionnaires chinois, pour l'autre, qui travaillent de près ou de loin avec les Chinois. Et qu'est-ce qu'on voit avec la Chine ? On voit que c'est plutôt un pays qui s'est désengagé du football depuis maintenant un an ou deux, avec les contrats qui ont explosé.
L'actionnaire chinois est solide.
T'as vu, quand il gagne le point, il fait très long.
Les contrats qui ont explosé avec les contrats télé, avec le championnat britannique. Avec le
stop. Allez, on a compris.
Sérieusement,
mais on est sérieux.
Alors, attention.
Il faut quand même savoir que Philippe s'enfourche, il l'a toutes les semaines.
Déjà, le jeu prend des lois tout le temps.
Parce qu'après, je pondère.
C'est absolument pas. Il y a les rassemblements internationaux.
S'il vous plaît, un peu de discipline. Une dernière question. 11-0 pour l'équipe de France féminine de football. Vendredi soir contre l'Estonie. Match retransmis sur W9 avec notre ami Xavier Domergue. Match dont les droits appartiennent au groupe M6. Donc, prise de risque maximum dans la question que j'ai formulée.
On va pas entendre s'enfourche, là.
Prise de risque.
Moi non plus.
Maximum dans la question que j'ai formulée.
Génial, magnifique.
Est-ce que c'est vraiment une bonne pub pour le foot féminin?
Stéphane. Oui. Oh, ben oui. Ça, il va à l'encontre, c'est bien.
Ça permet à l'équipe de France de briller. Quand l'équipe de France gagne à Auxerre 9-0 avec Aimé Jacquet contre l'Azerbaïdjan, je ne vous ai pas entendu dire à l'époque que l'équipe de France était un produit donc masculine à l'époque, parce qu'on parlait beaucoup plus.
11-0.
Ben 9-0,
c'est arrivé
pareil.
Une fois dans l'histoire mais non, mais moderne de l'équipe de France.
Mais ça arrive, ça.
Bon, stop, on a fini. Ah,
bon.
Je trouve très bien.
Très bien.
Question,
on s'en va, donner les points.
Je voudrais, à l'initiative de Cindy Colmenares, rappeler que Pelé, le roi Pelé, fête aujourd'hui ses 81 ans, et que cette semaine, Giroud a fêté ses 83 ans. J'avais une question sur l'indice UEFA. Il nous aurait seriné, Giroud, avec le bon bilan des clubs européens cette semaine avec l'indice UEFA. Mais on le salue, car c'est un monsieur que personnellement j'affectionne.
On le respecte.
Merci à vous tous pour votre brillante participation. Vraiment,
c'est demain, vous regardez le classique
Non, là, je sors du studio et je m'occupe du classement général provisoire. Déjà, première étape.
Chocolat ou chocolat ?
Merci Poël, merci Sébrac, merci Sanfourche, merci à vous tous de nous être fidèles.
Belle soirée.
Le foot continue, RTL Foot, avec toute l'équipe de Silvestro, de Domergue, de Baptiste Durieux et j'en oublie bien évidemment Giovanni Castaldi. Très bonne soirée, très bonne nuit à l'écoute de RTL.
RTL, ciao, on refait le match.